invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après avoir officié en première ligne dans les groupes Karma Lines of Humankind, Cannibal Elvis et Opium Photomaton, Isabelle Cluck, alias Isabelle K, a livré le 28 octobre de cette année son premier album solo, baptisé Noir. Avec ce disque à l'univers sombre mais groovy, Isabelle est allée chercher la lumière en convoquant pop, jazz, cold wave et électro. À cette occasion, elle est ce soir en direct et jusqu'à 21h en ma compagnie sur les ondes de Principe Actif. Et j'en suis très heureux. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Laurent.
Bienvenue dans l'émission Tour de Piste et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Alors avant de parler de l'album Noir, nous allons revenir sur ton parcours à la fois riche et varié, sur ton background musical comme on dit, qui s'est construit dès ton plus jeune âge. Ton père était musicien aux percussions et à la trompette et il a d'ailleurs joué dans l'orchestre de Jacques Lecomte. Dans quel environnement musical avez-vous baigné à l'enfance, vous, toi et le reste de la famille? Et quel héritage musical vous a-t-il laissé?
Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, mon père écoutait beaucoup de musique cubaine, afro, de jazz, du Ike et Tina Turner. J'avais mon oncle qui vivait à New York et qui nous ramenait des vinyles. Enfin, je lui demandais tout le temps de me ramener des vinyles. Donc, à 10-12 ans, j'écoutais des vinyles du studio 54, pardon, Billy Joel, enfin plein de groupes américains. Et puis aussi, il y avait toute cette musique que ma grand-mère écoutait, car elle est italienne, de l'opéra italien, qu'on écoutait très souvent à la maison quand elle était là. Et le côté aussi orchestre Zigane qui venait parfois à Noël jouer du violon, voilà, dont certains j'étais musicien chez Rasputin d'ailleurs à Paris. Et puis bah, la musique c'était très très présent en fait. Le dimanche on mettait un disque, on dansait, on écoutait. Il y avait beaucoup de danse aussi, on aimait beaucoup danser à la maison, on dansait beaucoup. Voilà.
Et alors, tant que tu parlais de ton oncle qui vivait à New York et donc te ramenait le studio 54, on peut redire, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'était une discothèque située à Broadway. Tu as cité quelques artistes comme ça. Et quel type de musique il t'a fait découvrir par ce biais? Tu nous en as cité quelques-uns, mais.
Alors, c'était tout ce qui était un peu mix funk, le début du hip-hop, du rap, enfin des choses. J'ai pas de nom comme ça. Il y avait beaucoup de Patrick Juvet, par exemple, qui était remixé, qui revenait ici.
Pourquoi pas?
Mais j'aimais beaucoup Patrick Juvet, je trouve qu'il a fait des morceaux vraiment vraiment top. Enfin je sais pas, il y avait là tu me prends un peu, il y avait plein de groupes de l'époque. Là j'ai un peu un trou, je te dirais. Faudrait que j'aie l'album devant moi parce que c'était des special mix, special voilà, des noms qui sont un peu sortis de ma tête parce que c'était il y a longtemps. Mais je peux donner, après, je pourrais redonner, en fait.
Alors, on va ouvrir ta programmation avec Andrea Laszlo de Simone. Le titre s'appelle Imanzeta. Il est sorti en 2019. C'est un garçon originaire de Turin. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce garçon?
Alors, tout fait, là-bas, que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur en ce moment. Et donc, je le trouvais extrêmement talentueux. C'est quelqu'un de très libre dans sa création. Il a fait l'ouverture des Transmusicales en 2021, je crois. Il est arrivé avec un album qui faisait 24 minutes avec 18 musiciens. Il a fumé 1000 clubs sur scène. Et puis, il fait très peu de scènes. Il enregistre tout chez lui. Il apprend à jouer d'un instrument s'il en a besoin pour l'enregistrement de son album. Et je trouve que ce qu'il fait est magnifique, très beau. Surtout ce morceau-là qui s'appelle, je les aime tous, mais Imanzeta. Et je trouve ça bien aussi d'écouter un peu de musique italienne parce que en Italie, il y a eu et il y a encore beaucoup de gens talentueux musicalement, dont Ennio Morricone et un qui vient de, j'ai oublié son nom aussi, excusez-moi, qui faisait la musique des films de, comment s'appelait-il, David Lynch, qui vient de disparaître là, je me rappelle pas, enfin bon, et je trouve que cet univers est très doux, très beau, très ouvert, et j'adore le titre Imanzeta, voilà.
Thank you.
Tante lo vieta. Tutto questo è immensità. E lavorare per 10 ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore. Anche questa è immensità. Tutta la realtà è immensità. Come il sogno poi si dissolverà. Da domani inizierà una nuova immensità. Da domani. Da domani. Da domani.
Manzetta, extrait de l'album du même nom du Turinois Andrea Laszlo De Simone, publié donc en 2019. J'allais te poser la question de savoir si tu avais des origines italiennes. Tu nous en as parlé en annonçant ce titre.
Si.
Et on se disait, hors antenne, que la pop italienne, la chanson italienne, n'était pas à la place qu'elle méritait, peut-être en Europe et sur le paysage musical pop international.
Bah, complètement. Enfin, il y a en Italie des musiciens absolument incroyables. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Ennio Morricone et Giorgio Moroder. C'est aussi des gens qui ont construit des claviers absolument incroyables. Des farfisa. Enfin, ils ont une notion du son. Et puis, de toute façon, on va parler direct de la Scala aussi. Je veux dire, la Scala, c'était l'endroit où on venait écouter la musique.
Et l'opéra.
Et l'opéra. Mmh. Et en fait, voilà. Et c'est Mozart qui a en fait imposé l'italien sur la plupart des livrets parce qu'il a dit l'opéra, ça chante en italien. Et l'Italie est forte de beaucoup de choses.
Des nombreuses disciplines de l'art. On va en parler de ça. Tu vas d'abord choisir la comédie. Qu'est-ce qui t'a fait finalement choisir la musique?
La musique, j'ai l'impression que je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisie finalement. Parce que très jeune, je me mettais à chanter mes livres, je me mettais à... Quand je faisais mes devoirs, je prenais la moitié du temps pour mes devoirs et la moitié du temps pour chanter et pour danser. Et je ne sais pas, c'est... En fait, je n'ai pas choisi la musique... Ouais, la musique m'a choisi quelque part, c'est ce que je viens de dire, mais à un moment dans ma vie, voilà, ça a été la musique. C'était la musique, c'était là, je chantais, je faisais des petites choses à droite, à gauche, et après je suis rentrée, donc j'ai pris la décision d'entrer à l'école de jazz de Paris, donc de vraiment apprendre, et voilà, apprendre avec des professeurs. Mais même dans les cours de théâtre que je suivais, il y avait des cours de chant, il y avait des cours de comédie musicale, il y avait... voilà.
Et la pratique du chant et de divers instruments, elle a commencé quand et comment?
Bah, du chant très jeune. D'ailleurs, mon oncle m'appelait la Calas. C'était très agréable.
C'est plutôt flatteur.
Oui, donc je chantais, comme je disais, beaucoup. Elle a commencé, mais en fait, il y avait une dame qui donnait des cours de solfège dans le village où j'habitais, à Huée. Donc j'y allais déjà. Et puis... Après, j'ai appris seule, j'ai chanté, j'ai passé des disques, j'écrivais les paroles, je chantais. Alors, je connaissais tout, je connais toujours tout. Enfin, c'est incroyable. J'ai gardé la mémoire de cette époque, de toutes ces chansons françaises, de tous ces groupes qui chantaient. Voilà, c'était Véronique Sanson, c'était Joe Dassin, c'était Claude François, c'était, enfin voilà, c'était toutes ces chansons, avec des paroles, enfin, paroles un peu avec une musique assez, comment dire, sucrée. Enfin voilà, c'était ça, j'écoutais ça, ça me transportait, ça me traversait. Et puis, alors instrument, non pas vraiment. Instrument, j'ai commencé plus tard. C'est-à-dire que oui, je connaissais quelques notes au piano, etc. Mais j'ai appris les instruments seuls beaucoup plus tard. Voilà, c'était le piano, ça a été sur un album que j'ai fait il y a 5 ans, que j'ai pas sorti d'ailleurs en anglais. Et puis la guitare, ça a été pour Cannibal Elvis, parce que j'avais envie de jouer cet instrument, donc j'ai pris une guitare, j'ai appris les accords, et puis j'ai écrit la plupart des titres de The End of Poison, et surtout après on a plus collaboré sur le deuxième. Voilà, c'était les instruments sont arrivés beaucoup plus tard. À part la flûte, et Belle et Sébastien qu'on jouait à l'école, qu'on a tous joué sur des flûtes au cours de musique, en fait.
Et t'as pris des cours de chant avec Christine Bézot.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as tiré de son enseignement ?
Alors, avoir le courage d'être différent, avoir le courage d'assumer sa voix, même si elle n'est pas spécialement parfaite. Voilà, c'était ça, une certaine liberté. Elle était très rock'n'roll, elle écoutait Kate Bush.
Et c'était pas un enseignement classique.
Non, par contre, j'étais rentrée dans cette école, à l'école de jazz, pour prendre des cours avec Christiane Legrand, donc la sœur
de Michel.
Voilà, parce que j'étais absolument fan et de Podane et des demoiselles de Rochefort et des Parapluies de Cherbourg, etc. Et j'avais envie d'aller vers, en fait, apprendre. Elle donnait des cours de scat, donc scat, improvisation dans le jazz. Et puis j'adorais, en fait, voilà, c'est ces voix-là. Et elle a annulé ses cours, donc je me suis retrouvée avec Christine Bézot. Et ça a été super, en fait, comme quoi les accidents dans la vie sont parfois... donc ça m'a sorti, parce que peut-être que je serais partie dans une carrière un peu plus classique.
Plus classique, ouais.
Ouais, de jazz, de gospel, voilà, de choses comme ça.
Et alors te voilà désormais en solo, après plusieurs expériences en groupe. Qu'est-ce qui était à l'origine de cette échappée en solitaire ?
Une échappée en solitaire, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'était un peu comme un contrat avec moi-même, enfin un contrat ou une expérience, parce que pour moi la musique c'est avant tout une matière qui me permet d'explorer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de formes artistiques aussi, hein. Et j'avais envie de ça, et j'ai traversé une période très difficile pendant une dizaine d'années. Et la musique, comme souvent, était là pour me tenir, pour me faire avancer. Et je me suis dit, voilà, ce que je ressens là, à l'intérieur de moi, cette expérience extraordinaire et douloureuse que j'ai pu vivre, il faut que j'en fasse quelque chose, en fait. Il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, au départ, je savais pas si j'allais le sortir ou pas. Et puis, du coup, c'était clair. Et j'étais plus partie, en fait, sur mettre des mots sur des rythmes plutôt que un travail musical comme j'avais pu le faire sur d'autres projets. C'est-à-dire que là, j'avais envie de dire les choses, et j'étais comme dans un état quand même un peu de, pas de mutisme, mais j'avais beaucoup de mal à me remettre à chanter, en fait, par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'avais un peu perdu ma voix, donc je fredonnais un peu comme ça des petites mélodies, et je me suis dit, bon, puisque j'ai perdu ma voix un peu, etc., je vais parler, je vais raconter l'histoire comme je la sens, voilà. Et je me suis mise à travailler seule, et j'ai tout enregistré seule, j'ai tout produit seule, à part le mastering. Mon compagnon m'a aidé à... Je lui ai demandé, Patrice, de venir me donner un petit coup de main juste pour écouter un peu le mix. Mais après, voilà, j'ai... Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est un peu comme une expérience cathartique, je dirais, ce qui me fait... parce que là, ça fait 2 mois qu'il est sorti, donc j'ai même pas encore eu le temps de m'arrêter pour apprécier ça. Là, je vais Voilà, parce que comme je fais beaucoup de choses par moi-même, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai pas eu le temps de voir ça. Mais en tout cas, ce que je ressens là depuis 2 mois, je me sens un bouleversement et je sens un retour à la vie, à la joie. Bon, ça veut pas dire que ça m'avait complètement quitté. Mais en tout cas, voilà, un retour à la musique, vraiment, dans le cœur de la musique. Et puis, je suis fière d'avoir pris ce risque-là.
Ouais, bah, tu peux.
Merci, c'est gentil. Après, voilà, ça, comme c'est un peu... Enfin, je veux dire, j'étais dans cette espèce de choix de mettre des boucles qui tournent un peu comme cette douleur qui tourne en nous parfois. On a cette douleur qui tourne. Qui revient, qui tourne en permanence. Mais je voulais la mettre dans quelque chose d'assez positif. Et bon, voilà. That's all, folks.
Et on va écouter, ce sera le seul extrait de ton album. Hein. On a fait le choix ce soir de passer un seul extrait de ton album. Et
oui,
puis
parce que j'avais envie de...
Et que tu joues un rôle prescripteur. Enfin,
oui,
de,
et aussi par rapport à quelque chose que je défends, que je t'ai pas dit, en fait. Je pense que les gens sont, voilà, sont assez grands pour faire leur choix eux-mêmes. Et il y a quelque chose que je ne supporte pas trop, par exemple. Ce sont, par exemple, les bandes-annonces de films qu'on nous vend aujourd'hui. C'est-à-dire que sur la bande-annonce, dans la bande-annonce, on a tout le film, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace pour imaginer, pour savoir, pour voilà, on te raconte toute l'histoire pour te tirer. En fait, moi, je pense que les gens sont assez grands pour faire leur choix. Ils m'écoutent, ils peuvent écouter l'album sur
en ligne, physique,
voilà.
Hein,
maintenant, ça aussi en fin on a choisi Super Sexe, voilà, c'est ça.
C'est ça. C'est...
éloignée de ma patrie et de mes ex, avec mon chien Léo armé de mon Rolleiflex, je prenais des photos en couleur, en surex. À cette époque, I wanted to be an actress. Je rêvais de New York et de Los Angeles, de Marlon Brando et de John Cassavetes, traînant mon perfecto dans les clubs en duplex. À cette époque, la beauté, la chenille, la chenille, la chenille. À cette époque, je pouvais tout ou presque disparaître illico, sans remords, sans complexe, dans mon mini studio magnéto VHS. J'imaginais les mots, les accents circonflexes. À cette époque, I thought I will always be the best. J'écumais les expos, les salons free access. Tout était super beau, super cool, super sexe. Tout glissait sur ma peau, marchant rue des abbesses. À cette époque, à cette époque, la beauté, la jeunesse. La boule à l'été.
la chaise.
Le titre s'appelle Super Sex. C'est un morceau de Isabelle K qui était sur le plateau dans le plateau de l'émission Tour de Piste ce soir. Ce sera le seul extrait donc de ton album. Après un retour en France, là, tu t'exiles en Angleterre, l'Angleterre de cette époque-là. C'est celle d'un nouveau mouvement musical appelé Trip Hop et incarné par Massive Attack et Portishead, entre autres. Comment as-tu vécu cette révolution musicale de l'électro? Comment tu t'en as emparé?
Ah, ça a été pour moi quand j'ai écouté Portishead pour la première fois.
C'est des chefs-d'œuvre, hein. Enfin ils ont.
Ah mais non, mais j'ai. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vois, t'as des gens comme ça dans la musique qui vont ouvrir des portes. Eux m'ont ouvert des portes. Voilà. C'est-à-dire que cette manière de chanter à la limite du jazz, blues. Bon, en plus Portishead, elle est Beth Gibbons. Je trouve que c'est une chanteuse absolument
extraordinaire,
formidable,
qui est passée à Évreux d'ailleurs avec Paul Webb.
Cet album est magnifique. Qu'elle a fait en solo aussi, ouais, c'est superbe. Et ça a été, je sais pas, ça m'a emporté. J'ai trouvé ça super beau. C'était un mélange de beaucoup de choses, en fait, de cette culture anglaise et bon, c'était apporté
complètement digéré.
Digéré aussi avec des influences black assez fortes. Enfin, je veux dire par Tricky, des grooves comme ça. Et puis assez dark aussi. C'est assumer le côté dark des choses. Mais pas spécialement d'une manière complètement destroy, dans une espèce de chose assez lumineuse et groovy, quoi. En fait.
Et puis l'album de Beth Gibbons avec Paul Webb, il est très mélancolique, une espèce de beauté. Il y a une beauté un peu désespérée dans ces disques-là, mais.
Ben, moi, j'adore ça, ça me gêne pas. Au contraire, aussi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Et elle me manque, hein, voilà. Je trouve qu'elle manque. Bon, eux, ils ont eu beaucoup de colère par rapport à tout le système. La grosse machine musicale, voilà, ils sont un peu arrêtés pour ça aussi. Enfin, ils sont, oui, ils vont venir, vont pas revenir.
Mais
leur
talent manque effectivement.
Ah, énormément. Et elle, je trouve que c'est une des plus grandes chanteuses que j'ai jamais entendues en fait.
Je propose qu'on en écoute un extrait.
Ouais.
Portishead, ça s'appelle It Could Be Sweet. C'est extrait de leur premier album, Dummy.
Ouais.
Thank you. don't get something for nothing. Too bad. Can we try a little harder? Cause I don't wanna lose what we had last time you're leaving. This love ain't fair. No, you don't get something for nothing.
Du premier album demi des Anglais de Portishead. Les fans auront reconnu évidemment le titre It Could Be Sweet, disque qu'on écoute encore aujourd'hui et qu'on continue à découvrir, ma chère Isabelle.
Ouais.
Et ça, c'est le propre des chefs-d'œuvre. C'est
ouais,
quand même la manière dont ils traversent l'épreuve du temps. T'as eu plusieurs expériences en groupe, donc en anglais, je les ai citées en début d'émission, Karma Lines of Human Kind, avec Patrice Rabillet, donc ton conjoint Emmanu Cluc, le frangin,
ouais.
Cannibal Elvis avec les mêmes protagonistes, et Opium Photomaton dont tu parlais tout à l'heure. C'est une affaire de famille, la musique et l'art chez les Cluc.
Bah apparemment oui. C'est tout ce que j'ai à dire.
Alors ces différentes expériences ont-elles nourri ton album solo Noir qui est sorti en octobre
bien
de cette
évidemment.
Année forcément.
Évidemment, mais non seulement ces expériences, mais en fait tout ce que j'ai digéré depuis toutes ces années.
Moi voilà. je fais enfin pour faire comme ça vite. Si je devais dire une phrase sur ton album Noir, je trouve que c'est une synthèse inédite de tout ce que t'as accumulé au cours de ta vie. C'est pour ça que je te posais cette question là.
Ah ben c'est très touchant. Parce que c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre dans cet album, vu que j'étais complètement paumée. J'ai essayé de remonter le fil du temps. Et voilà, j'ai mis jusqu'à revenir à aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Bah écoute, c'est ça alors, si tu le dis. C'est très bien.
Et parmi les musiciens avec lesquels tu as joué, certains d'entre eux ont-ils collaboré avec toi pour l'album ?
Aucun, moi j'ai tout fait.
Aucun, oui, ce que tu disais en début d'émission,
j'ai tout fait toute seule. Tout fait toute seule, ouais, c'était super. J'adore collaborer, j'adore les autres, mais je trouve que d'être face à soi, c'est une expérience très intéressante.
Et alors, on va écouter Compromat hein, quelques minutes, ça s'impose. La musique du groupe Compromat a été en grande partie influencée par la scène électro de Berlin. L'ambiance très particulière de l'Allemagne de l'Est, où tu as fait de nombreux séjours, là aussi, a-t-elle joué un rôle dans les ambiances de ton disque ?
Complètement. C'est-à-dire que la noirceur des clubs, la noirceur du Nord, on parlait de l'Italie pour commencer, qui est dans la lumière, mais la noirceur des clubs et la techno allemande, c'est énorme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu Nina Hagen, par exemple, que j'aurais aimé mettre aussi, c'est encore autre chose.
Puis c'est vache comme exercice, hein, seulement 10 titres.
C'est très difficile. Mais aussi tout cet univers, je vais parler de Nick Cave, que j'ai pas mis non plus, mais qui est
australien, mais qui était fixé à Berlin.
Qui était fixé à Berlin, qui travaillait avec Wim Wenders,
qui a joué avec Crime and the City Solution.
Exactement, voilà. Bowie, Iggy Pop, qui était là. En fait, Berlin, oui, c'est une histoire très forte. De toute façon, cette ville est très forte. Et l'Allemagne de l'Est, après, c'était, il y avait pas grand chose, hein. Je veux dire, le mur était tombé. Les types, ils se relevaient juste, ils sont tous partis à l'ouest en fait. Dès qu'ils ont pu partir, ils ont passé par-dessus le mur et ils sont allés à l'ouest en courant parce qu'ils avaient quand même vécu une période. Et c'est les gens de l'ouest qui sont partis à l'est, ouvrir des clubs, trouver des grands espaces, des grandes usines, des lofts, etc. C'est-à-dire, c'est une espèce d'échange de lieux. Ceux qui étaient emprisonnés sont allés vers l'ouest et ceux qui étaient à l'ouest sont allés dans des lieux enfermés pour faire de la musique, quoi. Et en Allemagne, il y a beaucoup de musique techno. Enfin, je sais pas, Kraftwerk, Calmant, DAF,
il y en a plein. Hein.
Et très intéressant.
Ils avaient mauvaise presse dans les années 70-80.
Je connais pas.
Mais on doit un sacré héritage aussi aux Allemands.
Ouais, complètement. Faut pas oublier.
Alors, je vous propose.
Et en plus, c'est une langue que j'adore.
Et la musicalité de l'allemand Compromat va en être, même magnifique. Si c'est un groupe français.
Je croyais qu'ils étaient de Berlin, mais pas du tout.
Et pas du tout. Ils sont français. C'est donc le Dijonais Vitalik.
Et
la Nazarienne Rebecca Warrior.
Qui joue aussi dans Sexy Sushi, qui
et
chante.
Et Mansfieldia.
Voilà, c'est ça. Et ils sont géniaux.
Magnifique disque des Français avec cette techno très très allemande. C'est Compromat que vous écoutez en ce moment. Question que je t'ai un peu posée d'une autre manière tout à l'heure. L'électronique a peu à peu envahi tous les styles de musique.
pour le meilleur et pour le pire, comme pour tout. Quel impact cette révolution musicale a eu sur ta manière d'en faire? Ça, tu m'as déjà répondu un petit peu. Bah,
en tout cas, ça m'a apporté une liberté. Le fait de pouvoir être devant un ordinateur et de programmer seul, ça m'a donné beaucoup de liberté. J'ai pas eu à attendre après des musiciens, voilà, ni des musiciennes d'ailleurs. Voilà. J'avais accès à la création 24 heures sur 24, en fait.
Et on va poursuivre déjà, parce qu'on est très bavards tous les deux. Je crois qu'il faut jamais mettre deux Italiens sur le même plateau.
Si. Hein.
Parce que l'émission difficile. Pourrait durer 3 heures. Il faudra quand même qu'on rende l'antenne à 21h.
Ouais.
Avec du jazz, du groove. Malik Judy, le titre Vertige. Tu sais ce que tu veux rajouter, dire quelques mots. L'extrait de l'album 3. Alors 3, comme le cheval, hein, pas comme le chiffre.
Le chiffre 3. Moi, je suis fan de Malik Judy et j'adore sa manière de chanter très, très subtile et très. Voilà, je sais pas. Je vais pas vous écouter. Moi, j'adore Malik Judy. Je trouve que c'est un très grand musicien, très talentueux. Et justement, qui aussi utilise l'électro d'une manière très intéressante. Et je crois qu'il a fait son dernier album à la Villa. J'ai oublié le nom dans le sud, une villa, une résidence artistique. Donc, c'est quelqu'un qui a une démarche aussi très forte. Et voilà, j'adore Malik Judy. Je le redis. Donc, écoutons-le.
Et c'était Malik Judy, ça rigole en antenne, le morceau Vertige, donc extrait de l'album 3, sorti en 2021, l'année dernière. C'est un album léger, intimiste et sensuel.
Tu répètes souvent le mot sensuel.
Oui, alors je viens de m'en rendre compte, je le fais, c'est
ah,
vrai.
Tu vois, on a une...
Parce que je pense que pour moi, la musique, ça doit être sexy et sensuel.
Ah oui, d'accord.
Et évidemment, en antenne, on parlait justement de la sensualité, de la féminité assumée de gens comme Malik Judy.
Oui, Tellier.
Kiran, Tellier.
Flavien Berger.
Flavien Berger.
Voilà. Je trouve que dans l'univers français, je les trouve vraiment très intéressants.
Et là, ton album Noir ne fait que 8 titres. C'est un format court pour un album. C'était un souhait de ta part d'en dire beaucoup en peu de chansons
Bah, j'en avais une douzaine. Et puis je me suis dit, oui, c'est suffisant.
C'est suffisant. Ouais. J'ai dit ce que j'avais à dire sur cet album-là.
Voilà,
en tout cas.
C'est ça. Ouais.
Je propose qu'on aille au Brésil maintenant avec Vinicius de Moraes et Maria Croza. Le titre
et
s'appelle...
Et Toquinho.
Et oui. Et Toquinho, le titre s'appelle Tomara Ojala. Tu veux là aussi dire quelques mots sur le...
Alors oui, j'ai fait beaucoup de musique brésilienne. J'ai chanté avec beaucoup de musiciens brésiliens. Ça a été super. J'adore cette musique. J'adore la bossa nova. Et c'est pareil au Brésil. Il y a des gens d'une très... Enfin, il y a plein de gens avec de très grands talents. On a pris beaucoup de musique brésilienne dans les années 80. Que ce soit Michel Fugain, Nougaro, etc. Qu'on a réécrite en français. Et les Brésiliens, voilà. Enfin, je veux dire, c'est top, top musique. Alors là, on parle de sensualité à nouveau.
Alors, je vais pas dire le mot sensuel parce que ça va m'être reproché.
Bah, laissons la sensualité être là. Mais oui, c'est, et puis c'est un très bel album que je conseille à tout le monde qui a dû être enregistré en 1970 et qui vieillit absolument pas. Et Maria Creusa, qui est une grande, grande chanteuse brésilienne, et Vinicius de Moraes, qui est, voilà, une emblème. Voilà, il y a Creusa là-dedans pour longtemps. Si les gens ont envie de se pencher là-dessus, c'est superbe. On y va alors.
Un, deux, trois. Você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrepende e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. Se a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrepende e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz.
On parlait de la musicalité de la langue italienne, on parlait de la musicalité de l'allemand. Là, c'était le portugais du Brésil, qui est aussi magnifique, magnifique chanson. Magnifique chanson, elle est signée Vinicius de Moraes, Maria Creusa et Toquinho. Je sais que tu te moques un peu de mon accent, Isabelle,
mais
qui sont
parfait.
Anglais ou brésilien, tu as raison. Et le titre s'appelait Tomara Ojala. Je ne sais pas si on dit comme ça. La crise sanitaire, on va enchaîner sur une artiste américaine. Her, le titre que tu as choisi pour ce soir s'appelle I Can't Breathe.
Breathe, respirer, je ne peux pas respirer.
C'est une artiste extrêmement militante.
Oui.
Quelles sont les choses qui te mettent en colère dans le monde qu'on vit aujourd'hui ?
Beaucoup, beaucoup. Bon, déjà, Her, le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle I Can't Breathe. C'est la phrase qu'a dit George Floyd, ce monsieur de couleur noire qui a été tué et étouffé par des policiers le 25 mai 2020, je crois, et qui a fait que le monde entier s'est soulevé en disant et en créant le mouvement Black Lives Matter, ce qui veut dire chaque vie noire compte. Hein. Donc ça, par exemple, ça me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est en fait l'acharnement qu'on peut avoir sur des communautés, alors ou bien pour la religion, ou bien pour la couleur de peau, ou bien par rapport à l'identité sexuelle, etc. Et là, je trouve qu'il y a un espèce de discours assez nauséabond qui est en train de monter un peu partout autour de nous, alors que dans certains pays, comme en Iran, en Afghanistan, ou en Ukraine, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour garder leur liberté, qui se battent pour simplement vivre sans un voile, pour pouvoir écouter de la musique, parce qu'en Iran, les gens n'ont pas le droit ni d'écouter de la musique, ni de danser. Aujourd'hui, en Ukraine, les gens ne peuvent ni écouter de la musique et danser, c'est très difficile, en fait, etc. Et nous, dans notre société, en fait, européenne, on a quand même beaucoup de choses à disposition, on va choisir des discours de plus en plus violents et de plus en plus homophobes. Et ça, je trouve ça très, très, très inquiétant, en fait. Voilà, c'est avec cette espèce de violence qui tourne en boucle sur les chaînes de télévision, non-stop, c'est une espèce de, voilà, les infos, voilà, une espèce de culture du vide, de gens qui parlent, qui viennent donner leur avis sur tout et sur n'importe quoi, comme le dit ce grand poète français et philosophe Philippe Catherine, vous disiez que de la merde à une vitesse incroyable. Vous disiez toujours la même chose avec vos gueules de comptable. Je tenais à le citer. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ce discours arrive, en fait, dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire ça devient une espèce de chose normale d'entendre des choses extrêmement violentes. C'est extrêmement violent. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, en 2022, c'est très grave. Mais hélas, on assiste à ça, en fait. Bon, on peut aussi montrer l'Italie du doigt, je t'en parlais tout à l'heure, par rapport au fait que Giorgia Meloni, on n'est pas très bien placé pour le faire. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de montée nationaliste en Europe en ce moment qui est très grave.
Et la France n'est pas épargnée. Hein.
Non. Contrairement à ce qu'on peut croire.
Voilà. Les dernières élections présidentielles en sont la preuve.
Ben oui, bien sûr. Et voilà, et la sortie de l'Angleterre aussi, de l'Europe. Moi, mes amis anglais, ça les a rendus complètement fous de sortir de l'Europe. Alors, il y a ces moitié-moitié, bien sûr.
Il y a un recroqueviment sur soi. Enfin, on vit peut-être une période de repli sur soi.
Ben complètement. Et je pense que la crise sanitaire est... Ça a été un accélérateur énorme. C'est-à-dire que là, en fait, on a appris à vivre et à tout consommer à partir de chez nous.
On va écouter Heure.
Ouais.
Her. I can
breathe.
Starting a war, screaming peace at the same time. All the corruption and justice, the same crimes. Always a problem. We do or don't fight and we die, we don't have the same right. What is a gun to a man that surrenders? What's it gonna take for someone to defend her? If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil? I can't breathe. You're taking my
another time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized.
Ce slam que vous entendez en ce moment dans l'émission Tour de Piste, émission dans laquelle je suis en compagnie de Isabelle Cluck, qui vient défendre son dernier son premier album solo noir sorti en octobre de cette année, c'est Heure. Je te laisse redire le titre, ma chère Isabelle.
Tu veux pas le dire? I can't breathe.
On a parlé de ce qui te mettait en colère dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La crise sanitaire a eu un impact sur nos psychologies, sur notre manière d'appréhender le monde,
sur notre
manière de travailler. Quel impact il a eu sur la construction de ton album?
Ah bah moi ça a été, enfin je suis désolée de dire ça, mais ça a été un cadeau en fait. Et puis ça n'a pas beaucoup changé.
C'est un peu la réponse que j'attendais pas de réponse particulière, mais...
Oui, ça a été plutôt un cadeau, mais en fait ça n'a pas changé grand chose à ma vie de musicienne et de compositrice, puisque je vis la plupart du temps isolée du monde, enfermée dans un studio, à composer de la musique en fait. Mais là, d'un seul coup je me suis dit, tiens c'est un espace totalement pur, et puis... tout était complètement différent, même au niveau des sons, etc. Et non, enfin bon, évidemment, ça fait beaucoup de morts, c'est très triste et ça continue.
Oui,
d'ailleurs,
oui,
il faut faire attention quand même.
D'accord.
Non, moi, je l'ai pris comme quelque chose. En fait, j'ai adoré le fait que tout s'arrête et qu'on vive tous ensemble un moment comme ça, tous ensemble, la même chose au même moment. Je me suis dit, ah, peut-être que ça va faire bouger les choses, faire quelque chose de meilleur. Et ben non, on va faire quelque chose de pire. Donc voilà.
On va enchaîner avec un groupe de garçons, Queens of the Stone Age. Le morceau est très court, ça tombe bien puisque nous sommes très bavards. Et le titre s'appelle Medication.
Medication.
Des Queens of the Stone Age, extrait de Lullabies to Paralyze, quatrième album des Américains paru en 2005. Merci Isabelle, j'ai eu un bon accent anglais. Alors Björk déclarait récemment dans une interview pour le magazine Les Inrecuptibles, quand j'entends un groupe de guitare, j'entends le patriarcat, la bière, les nichons. C'est un monde très hostile pour les femmes. Toi qui as joué du rock à guitare avec des hommes, est-ce que tu partages ce point de vue?
Je peux comprendre pourquoi elle dit ça, c'est-à-dire que Björk, elle a aussi un parcours où elle a toujours elle a été très militante, et aujourd'hui donc sa cause, elle est respectable, c'est détruire le patriarcat pour créer le matriarcat, ce qui est tout à fait compréhensible avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se dénoue et tout ce qui se qui est révélé justement. Bon. Je peux comprendre. Alors, elle parle de nichons, de guitare, etc. C'est ça? Redis-moi la phrase. Je vais pas vite faire.
Et de bière.
Je comprends. Moi, j'ai regardé son dernier clip. Apospolos, ou je sais pas quoi. J'ai pas du tout aimé la musique. J'ai pas accroché. Mais par contre, Enfin, j'ai pas aimé, mais elle m'a complètement bougé. Et Björk, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui bouge par ses déclarations, par sa musique.
C'est les principes de l'art aussi.
Elle, hein. Voilà, elle a toujours une position extrêmement extrême. Je respecte ce qu'elle dit, je peux le comprendre. Je peux être en effet d'accord avec ça, mais je vais pas en faire une généralité parce que je connais plein de musiciens qui font du rock et qui jouent de la guitare, qui sont pas spécialement nés sur les nichons et qui se tapent pas spécialement de la bière. Voilà. Mais je peux comprendre l'image, qui peut être un peu cliché. Mais pour se sortir de choses qui sont étatiques, comme ça, on a besoin de clichés un peu poussés. Mais voilà. Par exemple, moi, je pense que au niveau du féminisme, le féminisme, bon, okay, je comprends la position et je soutiens vraiment MeToo, etc. Mais je ne pense pas que les choses se feront si on est séparés, hommes et femmes. Il faut que ça se fasse ensemble. Si ça ne se fait pas ensemble, c'est pas possible. Voilà. Et moi, j'ai plein d'hommes autour de moi qui sont extrêmement bienveillants aussi. Et j'ai connu plein de femmes aussi qui étaient juste des monstres. Donc je pense que voilà, c'est pas aussi simple que ça.
Alors, les jeunes générations s'investissent sur la question féministe et écologiste. As-tu l'impression que la place des femmes dans le précaré volontiers masculin, qu'est le domaine de la musique, a évolué?
J'ai l'impression que ça a pu s'empirer ou évoluer d'un sens et d'un autre. Enfin, je veux dire, il y a quand même des images féminines. Enfin, je veux dire, tu chantes un peu genre, je sais pas, très très poussé au niveau physique, c'est-à-dire short, culotte, barésie, etc. Je bouge
mais
les fesses.
Des clichés encore hyper persistants.
Mais qui sont de plus en plus persistants, de plus en plus forts. Enfin, je veux dire, quand tu vois que Kim Kardashian, je lui en veux pas, la pauvre. Hein. Enfin, je veux dire, quand je regarde, beaucoup, toutes les filles veulent ressembler à Kim Kardashian, qui est certes une jolie fille, bon, maintenant, c'est fait pas tout dans la vie, bon, très bien maquillée, etc., mais c'est quand même une espèce de vide. Toute cette jeune génération, en France, en tout cas, alors, on va prendre Pomme, il y a qui, il y a Pomme, il y a The Car, Christine and the Queen, c'est la même, Suzanne, Oshi, je connais pas toutes leurs noms, qui sont extrêmement militantes, qui sont d'ailleurs la plupart homosexuelles et qui assument leur homosexualité, chose qui aurait été absolument impossible à faire il y a quelques années. Enfin voilà, et aujourd'hui elle l'assume, elle le défend, et en plus il y a des gens qui se retrouvent là-dedans. Je trouve ça génial en fait qu'il y ait cet espace-là. Voilà, après, bon, moi j'ai 54 ans, c'est des nanas très jeunes. Après, des vieilles nanas un peu comme moi qui viennent et qui sortent, il n'y en a pas des masses. Alors maintenant, peut-être qu'on est un peu fatigué, qu'on n'est pas dans l'air du temps, je sais pas, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi, voilà, il y a encore du boulot à faire quand même au niveau des femmes, ça c'est sûr. Mais il y a des hommes aussi qui sont là pour les défendre aussi, enfin. Voilà, je suis féministe, mais je veux vraiment pas
être nous faire contre le procès des hommes parce que
non,
c'est des hommes, quoi.
Non, vraiment pas. Je pense pas que ça passe par. Enfin, pour moi, ça passe pas par là. Mais je comprends que ça passe par là pour d'autres.
Alors, et penses-tu défendre ton disque sur scène, hein, dans une interview que t'avais accordée à David Chappelle, qu'on salue s'il nous écoute.
Bonsoir David.
Tu avais déclaré que tu voulais pas défendre cet album, ton album noir sur scène. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que dans les semaines, dans les mois qui viennent, t'as envie de roder ce disque-là sur scène?
Bah, en fait, en le sortant, là, j'ai eu beaucoup de sollicitations de la part de beaucoup de gens qui ont envie de venir me voir. Donc, si tu veux, comme je suis sortie du noir, c'est peut-être cliché, mais en tout cas, sortir du noir, c'est aussi reprendre une reconnecter avec ce qui se passe à l'extérieur. Oui, je pense que je vais essayer de faire quelques concerts. Je pense que je vais faire des concerts, ouais. Je vais essayer de monter une équipe, je vais voir comment je vais m'en sortir. Là, je vais faire un petit break, je vais y penser.
Et il est sorti qu'il y a deux mois, hein, l'album, donc c'est,
ouais,
quand
voilà,
même
c'est
tout
ça.
Frais.
Voilà. Donc oui, je pense que je vais me lancer dans l'aventure. Je vais y aller, c'est pareil. Il y a des gens qui me le demandent, et par respect, il faut que je le fasse, et puis pour moi aussi.
Pour toi, on fait d'abord les choses pour soi. Hein.
Pour moi, ouais, voilà, c'est-à-dire que finalement, j'avais pas l'impression de m'en sentir capable, comme je me sentais pas capable de sortir cet album. Sortir cet album, ça a été bouleversant pour moi. Enfin, le soir de la sortie, j'étais complètement bouleversée, angoissée, très heureuse, mais alors le truc, enfin voilà. Et puis là, j'ai eu le temps de le digérer, et puis je me dis, mais ouais, en fait, voilà, la scène, ça fait partie de ma vie très fortement. Donc, ouais, puis ça me ferait plaisir. Alors, je me dis, voilà, est-ce que les gens ont aussi envie de venir écouter quelqu'un qui raconte des histoires, qui parle? Voilà, tu te poses des questions, tu vois, parce que la structure de ce que je fais, c'est pas un truc, comment dire, c'est pas spécialement mainstream, enfin, tu comprends,
je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Ouais.
Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, j'ai pas posé toutes les questions que je devais te poser parce qu'on a été hyper bavards.
Ouais.
Et c'est bien que ça se passe pas comme c'est prévu. Où est-ce qu'on peut trouver? On a écouté qu'un seul titre ce soir de ton album. Où est-ce qu'on peut le trouver à la fois en physique chez les disquaires qui restent ou en numérique?
Aucun disque pour l'instant. Je veux sortir un vinyle dès que je peux. Je veux le sortir en vinyle. Donc c'est sur toutes les plateformes de. Voilà, toutes les plateformes sur le web, quoi. Enfin, voilà, de download et de streaming. Voilà, YouTube, c'est des clips. Je pense sortir un autre clip à la rentrée, là. Voilà.
T'as des remerciements pour cet album ou même plus généralement sur tout ton parcours à...
Remerciements, tu veux finir tôt, là? Tu veux que on arrive à la bout de l'émission. J'ai des remerciements. Ben oui, oui, alors d'abord pour tous ces musiciens qu'on a écoutés et tous les autres et tous ceux qui ont eu le courage de choisir cette voie qui est la musique, parce qu'il faut avoir du courage pour faire de la musique et puis il faut avoir du courage pour sortir des albums et il faut avoir du courage pour aller chanter devant les gens quand même et de le transmettre et c'est voilà, je les remercie et puis tous les artistes qui prennent le risque de le faire, tous les gens qui sont tombés, qui se sont relevés pour revenir plus fort. Je remercie mon cher et tendre, ma maman qui est quelqu'un d'extraordinaire, ceux que j'ai perdus qui sont partis, et je remercie déjà ceux qui sont à venir. Et je te remercie toi aussi parce
Moi je te remercie aussi,
grâce à toi ce
soir. J'ai passé un bon moment.
Ouais, moi aussi. Et donc on devait mettre David Bowie.
Tu seras obligé de revenir parce que t'avais pas envie de passer plein d'autres morceaux.
Voilà, enfin en tout cas de dire que David Bowie c'est on the top of the list pour moi, c'est quelqu'un de magnifique.
Et alors donc moi je te remercie à nouveau pour ta présence sur le plateau de l'émission Tour de Piste, émission que vous retrouverez dans 15 jours à 20h sur les ondes de Principe Actif. J'aurai le plaisir de recevoir la poétesse folk Karen Lano en compagnie du musicien Olivier Legal. Ils nous joueront d'ailleurs quelques titres en live. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité et merci d'avoir choisi d'écouter l'émission ce soir alors qu'il y a la demi-finale de Coupe du Monde France-Maroc. Merci Isabelle, bonne
merci
soirée.
Merci Laurent, à dans bonne 15 soirée, jours. Au revoir.
Against the grain and fool them all again and again. I'm trying to.